pas aussi sécurisant parce que le personnel n'est pas aussi observant des mesures de prévention. Donc, il est possible qu'au cours du trajet ou même à l'hôtel, j'ai pu contacter le virus. Mais au-delà de ça, en faisant une analyse personnelle, j'ai vu quand même qu'il y a eu des signes qui sont apparus, que j'avais pris comme du paludisme et que j'ai traité comme du paludisme pendant ma présence au Burkina. C'est-à-dire, après 5 jours de séjour, j'ai eu une fièvre, une forte fièvre. J'ai confondu ça avec du paludisme. J'ai fait une malaria thérapie avec la combinaison thérapeutique alaténisinine et avec un antipyrétique, quelque chose contre la fièvre, et je m'étais senti mieux. Donc, cela montre en réalité que ce signe qui était assimilable au paludisme n'était que de faux signes et que le véritable motif de la fièvre était surtout Covid. Et c'est ça que le PCR a confirmé. Donc voilà.
Oui, c'est la même chose que vous aviez expliqué dans notre première émission, que lorsque les personnes ressentent les signes qui peuvent ressembler au paludisme, il est important d'aller à l'hôpital pour qu'on connaisse la vraie maladie qui se cache derrière les symptômes.
Exactement.
OK. Oui. Alphonse Boaki, notre auditeur de la RDC, vous demande de lui expliquer que le premier jour quand vous annoncez que vous étiez positif, comment avez-vous reçu cette nouvelle?
En fait, j'étais dubitatif. Je n'ai pas voulu y croire. J'ai dit, mais écoutez, malgré toutes mes précautions, mon masque mais à l'analyse, j'ai tout de suite compris qu'en réalité, ils avaient raison. OK, ils avaient raison. Parce que dans le développement plus tard, il y a la perte de l'odorat, qui est un signe quand même majeur aussi de COVID. Techniquement, nous appelons ça l'anosmie. Donc, je ne sentais plus les odeurs. Et beaucoup plus tard, au 8e jour, il y a eu otorrhée, donc écoulement au niveau des oreilles. Donc, tout ça, c'est des signes qui font la différence vraiment avec le paludisme et qu'on peut mettre sur le compte du COVID. Maintenant, au-delà de l'annonce, j'étais quand même serein parce que, après le traitement que j'ai pris, je m'étais senti mieux. Il n'y avait plus d'autres symptômes en dehors des deux autres qui sont apparus plus tard. J'étais confiant parce qu'il fallait me référencer vers un site de prise en charge qui est bien organisé, okay, où le protocole thérapeutique du pays devait être appliqué. Et je n'avais aucun autre symptôme, donc je me sentais confiant. Il n'y a pas de panique et il fallait même d'ailleurs l'éviter. Et voilà un peu ce que j'avais senti. Et le calme et la confiance que là où on est en train de m'envoyer, j'aurai le meilleur traitement et la meilleure prise en charge qu'il faut. Merci.
Et c'était quoi votre traitement? Vous l'avez suivi pendant combien de temps?
Oui, en fait, comme nous sommes au Burkina Faso, chaque pays a son protocole thérapeutique. Et pour la plupart des pays de la sous-région africaine et même en Afrique, c'est un traitement basé sur l'azithromycine et l'hydroxychloroquine. Et le traitement a duré pour l'azithromycine 5 jours et pour l'hydroxychloroquine 10 jours. Et au terme de 10 jours de traitement, il n'y avait plus d'autres traitements qui soient donnés. Mais l'isolement a duré 36 jours. Donc au-delà du traitement qui est thérapeutique et qui a duré selon le protocole 10 jours au total, l'isolement a duré 36 jours parce que pour confirmer la guérison, il faut un test, le PCR encore, et c'est au niveau du PCR qu'il y a eu beaucoup de résultats positifs, négatifs et qui n'ont pas conforté l'équipe de prise en charge. Parce que selon les critères, il faut que la personne ait deux tests négatifs au PCR. Donc, deux PCR testés négatifs successivement. Si les deux PCR ne sont pas testés négatifs successivement, alors la personne n'est pas déclarée guérie. Et c'est un peu ce qui a prolongé mon séjour dans l'isolement. Et jusqu'à 36 jours.
Mais votre guérison montre qu'on peut se remettre de la pandémie de coronavirus si on est infecté. Parce que beaucoup de gens se demandent s'il y a un traitement contre cette maladie.
Oui, le COVID-19, ce n'est pas une fatalité, sauf pour nos personnes vulnérables, dont, comme j'avais dit, les personnes âgées qui ont un problème d'immunité majeur et puis d'adaptabilité. Sinon, ce n'est pas une fatalité. Si on est observant, il n'y a pas encore de traitement qui soit internationalement approuvé par tous, mais le minimum de soins offerts d'un pays comme dans l'autre permettent aux gens de s'en sortir. Et c'est vraiment notre optimisme. Hein. Le reste, c'est surtout d'être observant. Parce que comme le virus peut attaquer tout le système, et si il y avait quelques défaillances chez une personne, la personne peut mourir de COVID. Donc voilà ce que moi je peux dire. Il s'agit d'être observant. Et pour le moment, en dehors des cas graves qu'on retrouve chez les personnes âgés et ceux qui ont des comorbidités, je pense que c'est une maladie qu'on peut garder sans préoccupation majeure. Il ne faut pas la banaliser parce que vous pouvez la transmettre à des personnes vulnérables qui sont à côté de vous.
Est-ce qu'au Burkina Faso ou bien dans la sous-région, le traitement anti-Covid est à la portée de beaucoup de personnes ou de tout le monde?
Ah, bien sûr. Déjà, l'azithromycine, c'est un médicament qui existait beaucoup en Afrique, qui était utilisé dans le cadre des infections respiratoires aiguës. Et puis la chloroquine, qui était utilisée déjà contre le paludisme pendant longtemps, des millénaires en Afrique, qui a été abandonnée et reprise. Et c'est vraiment, la prise en charge est gratuite. Et c'est ça l'avantage en Afrique. La prise en charge est gratuite et l'accessibilité même des médicaments dans les pharmacies sur prescription médicale est aisée. Donc, il n'y a pas de problème pour avoir accès aux soins. Surtout ceux qui sont asymptomatiques ou bien ils ont des symptômes mineurs, il n'est pas exigé qu'ils soient isolés dans un hôpital. On réserve l'hôpital pour les cas qui présentent des détresses respiratoires. Et ça permet de désengorger aussi les hôpitaux. Sinon, le traitement est accessible et gratuit dans la plupart de nos pays.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Pierre Kangoudia nous écrit depuis Miabi, certainement au Burkina, et il veut savoir si une personne déclarée guérie du COVID-19 peut être infectée à nouveau.
Effectivement, cela, c'est des informations qui ont été rapportées par les chercheurs, aussi bien en Belgique, même par des cas qui ont été observés aussi à Nevada et aux USA. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Effectivement, même si, comment on peut l'expliquer? Il est certain qu'une personne qui a attrapé COVID finit par développer une certaine immunité. Mais cette immunité, selon la physiologie même de la même personne, on ne sait pas quelle est la force de l'immunité qu'il a acquise. Okay? Et est-ce que c'est une faible immunité? Est-ce que c'est une immunité majeure qui lui permet de répondre efficacement lorsqu'il y a une autre infection? Ce n'est pas toujours le cas. Selon que l'immunité qu'il a acquise est faible, il peut ne pas être en mesure de riposter par rapport à une nouvelle contamination. Si bien que des cas ont été rapportés que des personnes qui ont été déjà déclarées guéries au COVID sont apparues avec une recontamination. Et les études ont montré que c'est une autre variante de COVID qui les a affectés et non les mêmes variantes qui avaient causé la première maladie chez eux. Cela veut dire que même quand on a été guéri, il faut demeurer prudent. On ne peut pas à présent se prononcer sur la fréquence de personnes qui sont en mesure d'être réinfectées. On ne peut pas, la science n'a pas encore fait des études pour montrer quelle est la fréquence, le taux de recontamination possible. Et l'autre aspect est quelle est la durée. Quelle est la durée de l'immunité que l'on acquiert? Donc, toutes ces questions sont toujours l'objet d'investigations par la science. Et ça pose aussi la problématique des vaccins. Parce que ces vaccins, quelle sera leur durée? Et tout ça, c'est des objets d'investigation. Et ce qui est certain, une personne qui a attrapé le COVID et qui en est guérie peut être recontaminée par d'autres souches et d'autres variantes de COVID. Cela amène ces personnes à continuer à être observants, à observer les mesures comme tout le monde, pour ne pas être contaminé à nouveau. Et la question qu'on se pose aussi sur ce point, et que nous n'allons pas perdre de vue, est-ce que au deuxième épisode, est-ce que c'est une forme grave ou une forme moins grave? Des cas de forme grave ont été rapportés et des cas de forme moins grave ont été rapportés à cette deuxième phase de développement de COVID. Donc cela nous amène à être prudents. Même quand on est guéri, il ne faut pas jouer trop aux champions. Il faut toujours observer les mesures de prévention qui sont les ABC de lutte contre le COVID, à savoir le port de masque, la distanciation sociale et puis le lavage des mains, la désinfection des mains à l'eau au savon ou bien avec une solution hydroalcoolique.
Alphonse Mbouaki de la RDC revient pour savoir à quel moment on peut vraiment déclarer complètement guéri un malade de coronavirus après les soins.
D'après le protocole approuvé par l'OMS et de la plupart de nos pays, et bien sûr, nos pays se sont montrés un peu plus exigeants sur les critères de guérison. Et nos pays en Afrique subsaharienne se sont montrés très exigeants sur les critères de guérison. C'est selon le protocole du Burkina Faso, dont que je maîtrise le mieux, c'est qu'une personne qui a été mise sous traitement pendant, selon le protocole, comme je l'ai dit, pendant les 10 jours, on lui fait un test de contrôle au PCR. Et il faut que le test de PCR soit négatif. Deux tests de PCR négatifs à 48 heures d'intervalle. C'est-à-dire, on fait un premier test, le test est négatif. 48 heures après, on fait un deuxième test et le test est encore négatif. Ça fait deux tests PCR négatifs à 48 heures d'intervalle et la personne est déclarée guérie. Ce qui se passe, c'est que parfois, le premier test peut être négatif, celui qui suit devient positif et alternatif, l'autre devient négatif et ça prolonge parfois le séjour du malade au-delà des 10 jours comme prévu. Mais ce qui est certain, la personne, les symptômes habituellement disparaissent. Hein, déjà, après une semaine de traitement, 5 à 1 semaine, les symptômes disparaissent pour la plupart, ok. Et puis, le reste, on s'en remet au test PCR. Donc, il y a parfois les tests PCR en Afrique, et c'est pas seulement en Afrique d'ailleurs, qui posent parfois problème, parce que chaque fois que c'est positif, alors que la personne n'est pas toujours contaminante, et les gens, par prudence, attendent nécessairement de réunir les deux tests négatifs à 48 heures d'intervalle. Donc voilà les dispositions qui sont prises dans nos pays en Afrique subsaharienne et je pense que ça peut aller.
Et donc, pendant le traitement, la personne ne présente plus de danger. Donc, après les deux tests qui déclarent la personne négative, elle peut facilement ou bien aussitôt rejoindre la famille ou bien elle doit encore se mettre en quarantaine.
Ah non, après, comme je vous l'ai dit, le critère de sortie, c'est un critère biologique, PCR est négatif à 48 heures d'intervalle. Cela montre que la personne n'est même plus contaminante, il n'est plus une menace pour son environnement social. Le reste maintenant, c'est peut-être l'environnement social qui peut être encore une source de recontamination pour lui. Donc, mais lui n'a plus à être une source de risque pour personne parce que les tests PCR sont revenus négatifs. Il n'est plus une source de risque. Maintenant, quand il retourne dans un environnement social où les gens ne se montrent pas précautionneux, il peut être recontaminé. Donc, ce qui est recommandé, comme dès qu'il sort, il faut qu'il continue à prendre des précautions pour ne pas se faire recontaminer. Mais lui-même, en fait, n'est plus une source de menace pour son environnement, à moins que pendant son parcours, il soit recontaminé à nouveau.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Il y a un auditeur ici qui dit qu'il a peur des personnes asymptomatiques. Comment est-ce que les gens peuvent se protéger contre ce genre de personnes qui ont le virus mais ne présentent aucun symptôme?
Vous savez, en parlant des mesures de prévention, il y a ce que nous appelons les mesures collectives de prévention et les mesures individuelles de prévention. Donc, si nous observons les mesures collectives de prévention qui sont résumées dans les trois éléments dont j'ai parlé, c'est la seule façon de se protéger d'un porteur asymptomatique. Parce que le porteur asymptomatique ne peut être déclaré porteur de COVID qu'après un test biologique, précisément le PCR, okay, en Afrique subsaharienne. Je sais qu'ailleurs, il y a d'autres tests, mais le test le plus accessible, c'est les PCR en Afrique subsaharienne. Donc voilà ce qu'il en est. Donc en observant les mesures collectives, qui sont les mesures recommandées à la communauté, c'est comme ça qu'on se préserve des personnes asymptomatiques. Donc c'est ce que je recommande toujours, même une personne guérie, puisqu'il ne sait pas si son voisin est un porteur sain, alors qu'il peut contaminer les gens asymptomatiques, alors il essaie d'observer les mesures de protection individuelle et les mesures de protection collective, et là, il est à l'abri de tout danger. Les mesures de prévention ne sont pas seulement pour les malades, c'est pour tout le monde.
D'accord. Alphonse Mbouaki veut savoir, après vos soins, quand vous étiez guéri, quelle était l'attitude de vos collègues au boulot ou bien des gens dans le quartier? Est-ce que les gens vous approchaient facilement ou vous avez subi le rejet ou la stigmatisation que certains malades sont en train de dénoncer?
Oui, effectivement. Déjà, moi, mon expérience en tant que patient a été très enrichissante parce que je n'ai pas paniqué, mais ça m'a permis de voir comment fonctionnent les confrères et en tant que professionnels face à la maladie. Déjà, même les professionnels de santé ont trop peur de la maladie, mais avec le temps, ils ont commencé par, comme si c'était du Ebola, ils ont commencé par réduire un peu les équipements de protection individuelle. Sinon, vraiment, ils se suréquipaient pour ne pas être affectés. Mais avec le temps, en prenant en considération la voie majeure de transmission, ils ont commencé par alléger un peu leur équipement de protection individuelle. Et ils ont peur chaque fois qu'ils veulent entrer en contact avec le patient. Et ça fait un aspect. Donc, j'étais devenu même une source de réconfort pour eux pendant mon séjour. L'autre aspect, effectivement, c'est la discrimination, et pas la discrimination, la stigmatisation de leur part. Okay? Même après la sortie, puisque après 10 jours de traitement, normalement, la personne n'est plus contaminante. Mais tant que le PCR n'est pas 48 heures, n'est pas deux fois négatif, eux, ils ne sont pas du tout favorables à vous approcher aisément. Donc, cette stigmatisation excessive est une réalité. Mais comme je le dis, en réalité, s'ils prennent la précaution, de ne pas discriminer et d'être prendre la précaution, quel que soit le type de patient, je pense que ça va réduire aussi le stress pour les malades. Donc, le problème le majeur que vit quelqu'un qui est malade, c'est l'isolement. C'est l'isolement parce que l'isolement, là, est excessif. Si déjà après 10 jours, la personne n'est plus contaminante, et comme le confirme aussi et l'OMS, mais pourquoi chercher à focaliser et c'est-à-dire à déterminer la sortie d'une personne sur des tests PCR qui sont parfois hypothétiques? Parce que même un test PCR positif, chez un patient qui a été traité pendant 10 jours, ça peut ne pas être toujours un signe qu'il y a l'infection. Donc voilà un peu des aspects quand même que nos États, par nos professionnels de santé, par excès d'inquiétude, font subir aux patients. Avec le temps, certainement, avec le temps, comme on le voit, les dispositifs seront suffisamment allégés pour tous et pour réduire aussi les stigmatisations. Je pense qu'il faut considérer tout le monde comme suspect et ne plus faire de la discrimination. Voilà un peu les recommandations que je peux donner et pour les avoir des...
Docteur, aujourd'hui, tout le monde est en train de penser que le vaccin pourrait être le moyen le plus efficace pour protéger les gens. Est-ce qu'au Burkina, il y a un projet de développer le vaccin?
Pour le moment, en fait, beaucoup, il y a des études qui se font, hein. Il y a des études qui se font. Et pendant, par exemple, mon séjour, à un moment donné, mon secrétaire me fait remplir c'est-à-dire avoir mon approbation pour qu'il y ait des prélèvements pour tester les anticorps au niveau du patient qui a été déjà au contact du corona. Et ça, c'est dans une politique de recherche et pour aller même jusqu'à la vaccination. Et je pense que la plupart de nos pays sont ouverts. Je constate que la plupart de nos pays sont ouverts à cette vague mondiale de recherche de vaccination. Et on a des informations qui nous parviennent des pays occidentaux sur des vaccins qui ne vont pas tarder et être disponible. Nous restons dans l'attente de tout ça. Mais au-delà de ça, comme nous l'avons vu, quelle sera la durée de ce bassin, quelle sera sa capacité à préserver contre de nouvelles infections. Et ça, c'est avec le temps qu'on pourra apprécier tout ça. Et au lieu d'attendre, de mettre son espoir sur ce bassin qui est encore lointain, il faut mieux s'en tenir d'abord aux mesures élémentaires qui permettent d'éviter la maladie. Donc, c'est vraiment ce que moi, je peux recommander en ce moment.
Docteur Camille, est-ce que le fait d'avoir attrapé le coronavirus a changé quelque chose dans votre engagement contre la pandémie?
En fait, déjà, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé que c'est une expérience enrichissante. Et je rapporte souvent ce que j'ai vécu de façon anecdotique. C'est comme si j'étais en voyage comme un soldat pour aller combattre l'ennemi et j'ai été capturé. J'ai été capturé par le virus, donc ça m'a permis de pénétrer dans l'environnement où le virus vit pour comprendre mieux que personne, mieux que quiconque, comment il opère et ce qui peut provoquer chez l'humain en termes d'affect psychologique. Donc j'ai pu apprécier tout ça, si bien que je suis plus engagé que jamais pour éviter à ceux qui sont malades de vivre les problèmes dont j'ai été l'objet et qui ne sont pas recommandables, surtout la stigmatisation et puis les comportements des professionnels de santé. Donc voilà, ma détermination est majeure en ce moment et je le fais avec plus de confiance que tous pour avoir su que oui, c'est une maladie qui est contrôlable et qu'on peut vraiment en être guéri. Et dans tous les cas, ça me permet aussi, un, de lutter contre la stigmatisation, comme je l'ai dit, et aussi d'amener ceux qui font le déni de la maladie. Le déni encore existe, surtout en Afrique, où les gens commencent par relâcher en matière de port de masques dans la plupart de nos pays. Donc, cette expérience m'a permis de m'engager non seulement dans la prise en charge, mais aussi dans la communication pour un changement de comportement, aussi bien chez les professionnels qui stigmatisent, les familles qui stigmatisent, que ceux qui sont dans le déni et qui déclarent que la maladie n'existe pas.
Docteur, pour finir notre émission, pour finir ce programme, cette interview, quel est votre conseil aux malades du nouveau coronavirus, à leur entourage et même aux médecins?
Si j'ai un conseil à donner, d'abord aux malades, c'est de garder courage, que attraper le corona n'est pas une fatalité, et qu'on peut en guérir sans séquelles, ok, en étant observant, ok. En dehors même maintenant, quand on est guéri, il faut continuer à observer les mesures de prévention pour ne pas se faire recontaminer et pour ne pas être non plus une source de contamination pour nos personnes âgées et dont nous avons souvent besoin à côté de nous. Et aux personnes vulnérables qui ont une comorbidité, vraiment, soyez toujours précautionneux pour ne pas être une source de contamination pour d'autres personnes. Alors, ce qui concerne les parents, oui, portez un regard d'empathie à l'endroit des personnes malades. Ne les discriminez pas trop. Ils sont des vôtres. Si vous continuez à adopter les mesures de prévention, vous pouvez vivre ensemble sans que cela ne vous affecte. Donc, ils ont besoin de votre secours, votre appui psychologique et social. Donc, n'hésitez pas à le leur apporter. Donc, voilà des conseils que je peux donner tout en encourageant nos autorités et sanitaires aussi à continuer dans la lutte et à tenir compte des expériences pour limiter le dispositif d'isolement qui apparaît parfois excessif et qui ne sont pas vraiment nécessaires en cas de Covid. Je sais que ces isolements qui parfois cherchent à dépasser plus de 2 semaines sont parfois excessives et nous devons trouver entre nous, entre professionnels, les mesures pour réduire au mieux ces isolements qui affectent la psychologie des patients. Voilà les recommandations que je peux donner et tout en disant que vraiment, le meilleur est à venir et il n'y a pas d'inquiétude majeure.
C'était notre entretien avec le docteur Camille Gounimenou sur sa maladie du COVID-19. C'est aussi ici que s'achève notre programme « Votre santé, votre avenir ». Nous avons interviewé le docteur Camille Gounimenou, spécialiste de santé publique et médecin engagé dans l'appui international dans la lutte contre le coronavirus au Burkina Faso. Il nous a livré un riche témoignage en tant que malade guéri du COVID-19. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Il vous a été présenté par Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.